J'ai pas prévu nom d'introduction puisqu'il va, il va te présenter. Que par contre, moi je ne connais pas Frédéric. Peut-être que Béatrice, tu veux dire quelques mots sur Frédéric.
Voilà, alors Frédéric, comme vous l'avez
vous
vu.
Avez le droit de vous asseoir.
Merci. J'ai le grand plaisir d'être présentée par Frédéric Dieu, qui, comme vous le voyez, est un bébé par rapport à nous tous.
Mais, merci. Donc, Frédéric, merci beaucoup.
C'est un jeune poète, voilà. C'est un jeune poète et oui, c'est mon problème, c'est que je peux faire écrire parce que quand je parle, je n'ai jamais le mot juste. Voilà. Mais donc j'ai rencontré Frédéric au marché de la poésie l'an dernier. Il se trouve qu'on a parlé de mon livre récemment paru, qui venait de paraître, et j'ai eu la grande surprise et la joie de recevoir début octobre une longue analyse qui m'a beaucoup plu. Nous sommes rencontrés, nous avons parlé. Et du coup, lorsque Colette m'a invitée, j'ai tout de suite pensé à lui, puisque c'est lui qui avait d'emblée... Et puis jusqu'alors, je n'avais, je crois, que cette... j'espère ne pas me tromper. Enfin, c'était l'étude la plus complète que j'avais reçue. Voilà. Et Frédéric est donc poète lui aussi. Il a déjà écrit quelques livres, mais... Le meilleur est à venir encore.
J'espère. Merci Béatrice. Voilà, j'ai la joie et puis la responsabilité quand même de vous présenter et de vous faire comprendre et apprécier. Donc j'espère que je ne vais pas trop défigurer votre écriture et votre univers. Vous présenter rapidement avant peut-être de développer quelques thèmes qui me semblent importants dans vos livres et puis particulièrement dans vos derniers recueils. Je vais commencer, alors ça pourrait paraître discourtois, mais je vais commencer par parler de votre date de naissance, mais uniquement du jour de naissance, et parce que vous êtes né un 29 février. Et ça m'a tout de suite étonné, attiré, interpellé, etc. Je vous dis, quand on est né un 29 février, on doit avoir un rapport assez étrange au temps, un rapport non linéaire, non successif, avec un jour de naissance qui réapparaît comme ça une fois tous les 4 ans, et qui les 3 autres années se cache, disparaît, et voilà, une sorte de vie cachée obligée pendant 3 ans. Voilà. Donc une expérience peut-être précoce de la vie cachée. Vous vivez à Paris, vous êtes originaire des Vosges, qui est un peu votre arrière-pays, enfin, dans tous les sens du terme, l'arrière-pays, physique, mais aussi mental, enfin, votre arrière-paysage, je pourrais dire. Et c'est un arrière-pays que vous partagez avec Richard Rognier, sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Vous avez publié 10 recueils depuis 2007, j'en ai compté 10. Et alors pour les plus récents, il y a La cloche de tourmente qui est ici, je les montre, donc aux éditions Trobar, qui a eu le prix Troubadour. Voilà. Et dans les plus récents qui sont ici, que vous pourrez aussi, je pense, acheter ici, il y a donc dans l'ordre Résolution des rêves, ça c'est en 2016, donc tous à aux éditions L'herbe qui tremble. Ensuite, Un jour enfin l'accès, suivi d'un deuxième livre qui s'appelle Progression jusqu'au cœur, qui est aussi aux éditions L'herbe qui tremble. Et le dernier donc, dont j'ai essayé de parler un peu, qui s'appelle Au pied de la cascade, qui est paru en 2019. Vous êtes aussi auteur d'une thèse sur Cécile Sauvage, la maman de la mère d'Olivier Messiaen. Et qui a été publié sous une forme synthétique aux éditions du Cerf en 2009, et une édition qui s'appelle, le livre s'appelle Écrit d'amour. Et enfin, vous êtes une spécialiste, c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés, une spécialiste et une amie de Richard Rognier, dont vous avez préfacé le livre, le premier livre aux éditions de la Poésie Gallimard, je pense qu'il y en aura d'autres. Vous l'avez préfacé, vous avez écrit une monographie sur Richard Rognier, parue aussi aux éditions L'herbe qui tremble, qui s'appelle Richard Rognier ou L'ailleurs qui veut vivre. Et vous avez participé aussi à un ouvrage collectif consacré à Richard Rognier. Et enfin, vous êtes, ça, vous le savez tous, présidente du cercle Aliénor. Alors, je vais essayer de parler des thèmes qui m'ont retenu, enfin, que j'ai cru voir, apercevoir dans vos... Dans vos livres, et en particulier bon, dans les plus récents qui sont ici, donc essentiellement les trois livres parus aux éditions L'Herbe qui tremble. Et voilà, moi j'ai vu, pour l'instant en tout cas, quatre thèmes qui me semblent marquants. Le thème de l'eau, dont on peut dire qu'il irrigue votre œuvre. Voilà. Le thème de la quête archéologique et je dirais même spéléologique du cœur de l'être et du cœur de soi. Une angoisse qu'on perçoit devant le temps, devant ce qui disparaît dans le temps, et devant aussi ce qui est tu, voilà, au sens se taire, ce qui est tu et ce qui se tait. Et enfin... très présent, je trouve, dans vos recueils, une recherche de l'enfance et une vision de l'enfance comme renaissance. Voilà, je vais parler un peu de ces différents thèmes successivement. Et je commence par le thème de l'eau qu'on retrouve beaucoup notamment dans la première partie de Résolution des rêves. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup ce titre, Résolution des rêves, parce qu'il y a cette ambivalence de qu'est-ce que c'est résolution des rêves, est-ce que c'est résolution au sens de la résolution d'une énigme, donc les voilà, on résout l'énigme que peuvent constituer les rêves, est-ce que c'est la résolution au sens décision, c'est-à-dire les rêves mènent à une décision, on a presque des décisions qui seraient issues d'un rêve, ou est-ce qu'il y a une décision, la décision de rêver. Je prends la résolution de rêver, face à ce que vous appelez d'ailleurs à un moment le tribunal de la réalité. Voilà, donc il y a ces différents sens qui sont possibles, qui entrent en résonance aussi les uns avec les autres. Et alors je commence par lire le premier poème justement de Résolution des rêves. Alors je ne pense pas lire très bien, j'ai l'habitude de lire à voix basse de la poésie, mais très peu à voix haute, donc je vais essayer de faire au mieux. Donc c'est la seconde partie de ce premier poème de Résolution des rêves, je le lis. « À moi l'eau de vie où j'avance, au rythme de la confiance, par ample brasse, vers ma naissance. À moi eau de recréation, à moi eau qui porte aux rives du sens, l'être, syllabes et mots. » Alors moi, lisant ce poème inaugural, et je vois dans ce thème de l'eau étant symbole à la fois de vie et de mort, puisque l'eau c'est à la fois le dégel, la fertilité, mais ça peut être aussi la noyade. Et je trouve que je vois dans votre poésie, dans vos poèmes, un déploiement de la poésie. Comme une expérience intime peut-être de cette ambivalence de l'eau étant mort et vie, quelque chose peut-être de baptismal aussi dans cette expérience de la mort et de la vie, de la mort et de la résurrection, et peut-être une vision de la poésie comme une plongée, j'y reviendrai après, la décision de plonger dans quelque chose, j'y reviendrai, mais je pense que de plonger en soi et de plonger dans le langage, dans la parole. Et voilà, de plonger en soi par le langage, par la parole. Et comme si ce qu'il y avait de plus beau finalement, et ce qui était le plus digne d'être dit dans la poésie, c'était ce qui meurt et ce qui renaît. Voilà. Toujours sur le thème de l'eau, je le disais à l'instant, on a un peu l'impression que pour vous, la poésie, c'est un peu, je dirais, elle consiste à entrer dans un fleuve qu'on pourrait appeler le fleuve de la parole. Quand j'étais étudiant, il y avait un professeur de philosophie qui nous disait, je crois que c'est à peu près la phrase exacte, il nous disait, on prend la parole comme quelqu'un prend la mer, comme un nageur prend la mer, c'est-à-dire qu'on entre dans la parole comme une sorte d'océan et on va essayer de s'y mouvoir, d'avancer, mais on entre dans quelque chose de plus grand que soi, et on, on entre dans quelque chose qui nous dépasse. Et c'est une aventure. C'est la fréquentation qu'on sent beaucoup, je trouve, parce que dans Résolution des rêves, il y a trois rêves hein, qui se succèdent. Le premier porte sur le thème de l'eau. Et on sent cette fréquentation d'un océan de mots dans ce premier rêve, avec une plongée dans le langage et en soi, une recherche de son propre langage, et pas seulement une recherche de son propre langage, mais une recherche du langage du monde en soi, c'est-à-dire en cherchant mon propre langage, je cherche comment le langage du monde va résonner en moi. Justement, on perçoit également dans ce thème de l'eau tel que vous le traitez dans vos poèmes, me semble-t-il, l'image du flux et du fleuve qui nous constitue, un peu comme si l'eau c'était un peu l'autre nom du sang, et c'est comme si on était un peu traversé, constitué d'eau, et donc traversé par un fleuve qui est un fleuve de parole et aussi un fleuve de sang. Vous écrivez, c'est dans Résolution des rêves, page 23. Chaque fois que revient le calme en moi, c'est le petit ruisseau d'eau claire que je revois, tel qu'on l'aperçoit de la route, où chaque fois nous nous arrêtons et laissons, en silence, s'emplir nos yeux et nos oreilles, de ses couleurs, de son chant, de sa fuite, à travers champs, simplement dans l'ordre du monde. Et je trouve que dans ce poème, on voit bien cette idée d'un fleuve intérieur qui fait rejoindre l'ordre du monde, ou le fleuve du monde. Vous écrivez dans Progression jusqu'au cœur, page 110. Et là, je trouve qu'il y a un peu votre, peut-être, première image de votre art poétique, de ce qu'implique la poésie, de la façon dont vous la concevez. Il fallait affronter le risque de noyade et plonger en eau profonde, dans l'inconnu de ta vie, de ton être, pour que se dissolve l'idée de toi, que tu t'éprouves dans ta chair, jusqu'au cœur devenu aussi sûr et sensible que la boussole du marin en pleine mer. Alors ce poème, justement, me mène au deuxième thème, deuxième motif, je dirais plutôt, que je perçois dans votre poésie. C'est ce motif, et peut-être cette obsession de la fouille, de l'archéologie, de la spéléologie même. Cette idée que par la poésie, et enfin, ce sera à la fois la poésie sera à la fois le moyen de cela et l'aboutissement de cela. On va aller s'aventurer à l'intérieur de soi, mais un peu à la manière, je dirais, d'un mineur de fond, comme si on avançait dans une veine un peu obscure, et espérant trouver au bout de cette veine le cœur de l'être, le cœur de l'être et la résonance de son propre cœur avec le cœur du monde, peut-être. Et on retrouve dans cette... Alors quand je parle de fouille, moi j'ai beaucoup pensé en vous lisant à Charles Juliet, qui a un recueil qui s'appelle Fouille. Et dans beaucoup de ces recueils, il y a ce processus de découverte de soi progressive qui se fait. Chaque poème est un pas un peu vers qui fait progresser vers la connaissance de soi, mais une connaissance vraiment intime et intérieure. Vous écrivez dans Résolution des rêves, page 47. Quelle part de soi a-t-elle sombré au large de la conscience, hors de vue? En quel temps, lors de quel cataclysme, connus ou inconnus? Je ne le lis pas en entier, je lis la fin du poème. Il engloutit, légendes, des vies et des voix qui nous firent, fables des liens à restaurer, sésame du lieu retrouvé. On retrouve là à nouveau le thème de l'eau, le motif de l'eau, avec l'idée de... Alors moi ça m'a fait penser à l'Atlantide, l'idée d'un noyau de l'être, de soi, qui a disparu sous les flots, un peu comme si le cœur de notre personne était en fait un continent englouti. Et comme si nous venions et étions, comme si vous veniez et étiez, d'un monde englouti, avec ce que ça peut impliquer peut-être de difficultés de vivre, dans l'idée que si le cœur de soi est un monde englouti, bien ça signifie que la vie éloignée de ce cœur de soi qui est englouti est peut-être une survie ou une surnage par rapport à cette intériorité immergée. Mais vous ne vous arrêtez pas là, parce que là, justement, cette idée de soi comme un monde englouti, lointain, et qui est dont on est séparé par la distance de l'eau et par le silence de l'eau, ça conduit à une résolution, là aussi, et à cette, justement cette quête intérieure, cette fouille intérieure, à la recherche de l'immensité de l'être et de la personne malgré les limites temporelles, charnelles et terrestres de sa propre vie. Vous écrivez dans un jour Enfin l'accès, page 91, et je trouve ce poème est très à la fois résultat de vos investigations et très, très programmatique aussi. Un jour enfin l'accès. On quitte le jardin, savamment agencé, aux allées bien tracées. On pénètre dans la forêt, on avance dans l'inconnu, d'un espace non quadrillé, sans ordre, jusqu'à ce que voix et vent se confondent, et qu'une vie insoupçonnée jaillisse au milieu de soi, au centre d'une forêt, où tout reste fidèle à l'impulsion première. L'arbre qui pousse ses rameaux, la digitale inclinant sur l'espace, le salut pourpre de sa grappe, la source et son rêve de mer. Voilà, donc moi je vois dans votre poésie une sorte de spéléologie intime, une poésie mineure de fond. Je dis ça, mon grand-père était mineur de fond, donc c'est pour ça que je... Voilà. Et quelque chose de très concret aussi, je pense, c'est... je cherche le centre, voilà. Je cherche le centre de ma vie, le centre de mon être, et je pense qu'en fait chacun cherche le centre de sa vie et de son être, avec des questions finalement très très banales qu'on pourrait d'ailleurs écrire de façon très banale. C'est quoi le centre? C'est où le centre? Et qu'est-ce qu'on trouve au centre? Et pourquoi je cherche le centre? Voilà. Parce que peut-être je suis en périphérie de moi-même, en banlieue de moi-même.
Oui, avant de passer à l'autre thème, oui. Ça me fait penser, on en avait un peu parlé, et effectivement j'ai retrouvé ce texte qui est très vrai, enfin qui, sur la tortue, qui est un animal tout à fait ancien, préhistorique, et je peux le lire là. Poursuivant ma nage, j'ai aperçu, un peu flou à travers la profondeur, la masse immobile d'une grande tortue sur le fond, et je me suis réjouie, émerveillée que cet animal confondit avec la sienne, à l'abri sous sa carapace, ma préhistoire. Sûre qu'il aurait la prudence qu'il mette à sortir tête et pattes pour révéler de cet âge enfoui les fragments clairsemés, essentiels, qui éclairent ma route. Et effectivement, là... merci Frédéric de le souligner, c'est bien ce que je cherche par la poésie, ces fragments qui éclairent la route.
Alors dans cette recherche archéologique de soi, il n'y a pas ce n'est pas du narcissisme, puisque cette recherche du cœur de soi-même, du cœur de son propre être, elle vise aussi à atteindre au fond ce qui la confluence de son propre être avec le monde, la rencontre de son propre être, de son propre cœur avec le cœur du monde, et une sorte de, je parlais tout à l'heure de fleuve, mais de confluence entre le fleuve intérieur et le fleuve extérieur, le fleuve du monde. Une confluence et une résonance aussi entre son champ intérieur et le champ du monde. Il y a cette volonté qu'on trouve aussi, je trouve qu'il y a une parenté avec Richard Rogner, avec ce souci qu'il a, je crois, en tout cas, cette volonté de faire entrer son champ intérieur en résonance avec le champ du monde, qu'il y ait rencontre entre les deux, qu'il n'y ait pas pure recherche de soi sans rencontre avec le monde. Et on perçoit bien cette recherche de rencontre et de consonance dans un poème de Un jour enfin l'accès, page 92. Pour entendre ce qui chante en soi, en user, comme dans les soirs de printemps, quand le regard renonce à chercher sur les façades de pierre les merles amoureux dont retentit la rue, alors jaillit et se déploie et vibre au plus profond une mélodie sans origine connue, inouïe. Dernière chose qui me semble importante dans ce motif de l'archéologie, c'est aussi l'idée d'une poésie comme un travail souterrain, comme un ouvrage souterrain, et je dirais presque comme une gestation souterraine. Tout à l'heure, on parlait de la façon des différentes écoles d'écriture, enfin des différentes méthodes d'écriture de la poésie, entre ceux qui se mettent à leur table à 17h, quoi qu'il arrive, et puis ceux qui écrivent quand ça vient. mais je suis pas sûr qu'il y ait une opposition forcément entre les deux, parce que ceux qui... Moi, je suis plutôt de la seconde. C'est ceux qui écrivent quand ça vient, parce que... Voilà, qui a du mal à se mettre à 17h. Mais en réalité, quand ça vient, c'est parce qu'il y a eu un travail souterrain. Et c'est qu'en fait, il y a eu du 17h qui s'est fait automatiquement dans le... Enfin, je crois, dans le... voilà, donc... Faut pas avoir mauvaise conscience si on se met pas au travail à table à 17h. Moi, juste ça pour me rassurer. et alors, dans cette poésie comme gestation souterraine, on trouve la symbolique de la neige. Alors là, qui est prise pas forcément pas forcément en bonne part, la symbolique de la neige. Elle est souvent prise en bonne part comme thème de la pureté, de la virginité. Chez vous, elle est, il me semble, hein, elle est plutôt, je dirais pas en mauvaise part, mais en tout cas, la neige, c'est quelque chose qu'il faut franchir, enfin qu'il faut dégeler. Et la symbolique de la neige, pour vous, c'est plutôt, me semble-t-il, la symbolique de... C'est le silence, c'est l'immobilité, c'est l'absence de couleur, c'est ce qui égalise tout, finalement, ce qui aplanit les contrastes, qui fait disparaître les contrastes, et qui donc appelle, de la part du poète, un langage, mais un langage, je pense à un petit vers de Gilles Baudry qui dit, je crois qu'il écrit « Matin de neige », il pose une question, est-il plus pur prologue pour les pas ? Prologue pour les pas, la neige est un prologue pour les pas. La neige, c'est quelque chose que la poésie va faire fondre. Et les mots, justement, sont des... Vous le dites, je vais lire le poème dans « Résolution des rêves », vous dites que les mots sont des personnages, page 85... Je lis la fin du poème. Mots personnages, syllabes et pétales s'ouvrant sous la poussée d'une sève infusée au cœur d'une vie vierge. J'ai lu la fin, mais maintenant je vais lire le début du poème. Page blanche, de chair autant que de papier. Les mots que j'écris ont percé la neige d'un hiver que je croyais éternel. Neige tombée sur un paysage immobile, silencieux et sans vie. Jusqu'à ce que j'aperçoive sur l'herbe, par plaques, des lampions d'albâtre frissonnant, au vent comme de blanches étincelles. Donc la neige, au fond, c'est bah, au fond, c'est ce qui doit fondre. Et c'est que les mots vont faire fondre. Et on retrouve juste ici à nouveau ce thème de l'eau. L'eau qui succède à la neige, ben, c'est une eau de vie, puisque une eau vivifiante, puisque c'est une eau qui parle. C'est une eau qui est langage. Et donc les mots sont un flux intérieur qui va porter la vie, qui va diffuser la vie à l'intérieur d'un être qui est pris par la neige, hein, qui est une terre prise par la neige. Vous écrivez dans Un jour enfin l'accès, page 82. Terres intimes que tant de neige, flocon après flocon, avait rendu froide, et inhospitalière sous un manteau dont l'éclat subjuguait tous les yeux. Vous doutiez-vous que cette parure, votre orgueil, découvrirait une triste nudité, qu'elle devait fondre, l'eau vous imprégner, et du sol monter une herbe épaisse, où enfoncer nos pas, nos amours vivants. Et dans Progression jusqu'au cœur, vous écrivez, avec donc cette volonté de faire arriver l'eau, de faire fondre la neige, jour de colère, crue torrentielle, qui dévaste et découvre, libère et laboure une terre longtemps enfouie, terre nouvelle de l'amour et du chant. Et voilà, finalement, on se dit qu'il y a pour vous un nécessaire dégel, une nécessaire débâcle, qui est une libération, au risque de passer sa vie, précisément, dans la neige et donc dans le silence, l'immobilité. Et on trouve aussi cette idée de libération de quelque chose qui est fixe, immobile, presque minéral. On le trouve dans le poème qui est affiché sur la porte là, au pied de la cascade, donc je ne vais pas lire puisque il suffit d'ouvrir la porte, de sortir pour le lire. Je peux le lire. Alors, tu déliras en moi les mots qui s'étaient agrégés au long de générations dures et laborieuses en blocs de pudeur, en cailloux de silence obstruant la rencontre et l'échange sur un chemin soigneusement bordé par peur d'en sortir et de s'égarer hors du groupe. Mots compacts comme mottes de terre à fendre pour que l'air y restaure la vie. Donc là, c'est pas la neige, mais c'est quelque chose de... Voilà, la pierre dans lequel les mots vont mettre la fluidité et la vie. Alors, je parlais tout à l'heure aussi d'une certaine angoisse qu'on peut voir poindre dans certains de vos poèmes. Cette angoisse, je l'ai perçue, je lui ai vu principalement deux causes. Une angoisse dans le rapport au temps et une angoisse dans le rapport à la parole. Dans le rapport au temps, c'est... certains de vos poèmes, enfin, beaucoup de vos poèmes en parlent, donc je me permets peut-être de parler de la maladie de votre maman. Enfin, la maladie d'Alzheimer, enfin, qui est quelque chose beaucoup de personnes, qui est familier à beaucoup de personnes. Et chez vous, ça suscite une réflexion importante, à la fois sur le temps et la parole d'ailleurs, avec d'abord l'angoisse que vous ressentez en voyant votre maman, l'angoisse d'être perdu dans le temps, comme dans un labyrinthe. Et vous écrivez dans Résolution des rêves, page 94. En parlant de votre maman, pauvre mère pitoyable, funambule, pris de vertige, sur une strate du temps, je te regarde avancer, à tâtons, au-dessus du vide, dans une angoisse où passe l'ange, à peine une ombre. Il faudra bien qu'à la fin il te sauve du désastre, quand à sa vue s'ouvriront, comme deux ailes tes bras, à la fin. Et vous écrivez dans Un jour enfin l'accès. Je crois que ça concerne toujours votre maman. Et avec une pointe d'humour, au début, j'ai trouvé très, très, très belle. Enfin, non, je n'ai. Vous adressez à votre maman. Non, je n'ai pas vu ta mère. Elle parle à sa maman. Je ne sais pas où elle est, ce qu'elle devient. J'invoque, pour te rassurer, son caractère indépendant. Mais tu secoues la tête. Ta main tire un trait net, signe d'une rupture. L'oubli n'a effacé que sa mort. Ton amour, pour elle, que plus rien ne distrait, fait de toi, en dépit des années et du grand âge, une enfant livrée à l'abandon. Une enfant docile, aux gestes appliqués. Et j'ai pour toi, qui m'a porté, l'élan d'une mère acharnée à sauver tout ce qui peut l'être jusqu'au bout. Et on pressent là déjà cette sorte d'inversion. Le grand âge devient l'enfance, l'enfance devient le grand âge, on devient le parent de son parent et qui lui devient l'enfant de son enfant. Mais ça suscite tout de même une certaine angoisse par rapport au temps, une certaine angoisse bien évidemment par rapport à la mort, qui est un des sujets principaux de votre dernier recueil au pied de la cascade, et une angoisse par rapport à ce que, faisant le rapport d'ailleurs entre la mort et le silence, ce que Jean Follin appelle la mort sans phrase. Et justement, la seconde cause de votre angoisse, il me semble, ce sont les mots, c'est la parole. Alors ce sont les mots qui tuent, les paroles qui tuent. Dans Progression jusqu'au cœur, vous parlez, page 138, vous parlez de paroles qui vous hachent et vous couchent comme la grêle sur les blés. Et je vais faire un très mauvais jeu de mots, mais c'est un peu comme si... alors, on trouve beaucoup ce motif dans Au pied de la cascade, dans le poème que j'ai lu tout à l'heure. C'est que l'idée que ce qui est tu, au sens taire, ce qui est tu, tue, au sens se tuer. Voilà, mauvais jeu de mots pseudo-lacanien, mais qui a une réalité en fait dans votre poésie. Avec cette peur, et vous le dites pour votre maman, vous le voyez chez votre maman, cette peur d'être, au fond, d'être déserté par les mots. Vous dites de votre maman, les mots t'ont déserté. Un peu comme s'il y avait ce risque finalement de perdre la parole au sens d'être quitté par la parole. Et je termine par le thème de le motif de l'enfance, qui est aussi très présent dans votre poésie. Je parlais au début des Vosges. C'est une terre. C'est un temps, mais c'est aussi une terre nourricière. C'est la terre de l'enfance. Et justement, on sent beaucoup en vous lisant que l'enfance est une terre nourricière. L'enfance, le temps de l'enfance, une matrice. Vous écrivez dans Résolution des rêves, page 35.
Dans Résolution des
rêves. Là, voilà, merci, Fanny. Page 35. Ô visage, ô regard, qui soudain rouvre le lointain pays, au fond de la mémoire, estompé. Pays de l'enveloppement premier et de la parfaite tendresse, pays de la mer et de la passion. Ô regard, ô visage, où se ravive la perte, se creuse le désir, promesse immense, déjà minée par la peur que s'échappe le mystérieux objet cherché. On a l'impression, en vous lisant, que l'enfance est pour vous, je dirais, la meilleure part, peut-être, en tout cas, la part de le noyau dur de l'être, la part d'éternité. L'enfance est un arrière-pays et un arrière-paysage. On le voit de manière très, très belle dans ce poème d'un jour enfin lacé, où vous projetez. De façon très, très visuelle, hein, très, très, très picturale, vous projetez l'ombre de l'enfant. Il y a l'ombre de l'enfant qui se détache derrière l'adulte. Page 47. Ô, cet enfant qui inscrit sur ton existence
ainsi que le soleil sur la rivière, des taches de clarté, tout un jeu d'ombre et de lumière que traverse sans les emporter l'eau qui passe. Et finalement, l'enfant est un peu, l'enfance sont un peu une sorte de puissance tutélaire, enfin une presque un ange gardien, on pourrait dire, en tout cas la part la plus importante de soi qui demeure toujours dans l'ombre de soi. Et après, à chacun de voir ce qu'on veut faire de cette ombre, quelle part on veut donner à cette ombre, jusqu'à quel point on veut l'amener vers la lumière. L'enfance, c'est peut-être ce que vous appelez dans Progression jusqu'au cœur, la saison intime. Lorsque vous parlez d'une tempête de neige au printemps, c'est cette rencontre entre les flocons de neige avec quelque chose de très pictural et de très japonais, je dirais, dans la rencontre entre les flocons de neige et les fleurs de cerisier. Et il y a tout ça qui vole, enfin, c'est presque une estampe. Hein. Et vous parlez de saison intime. Peut-être que l'enfance est cette saison intime. Finalement, puis je terminerai par là. C'est presque l'aboutissement. On a l'impression que l'enfant, chez vous, l'enfant conduit l'adulte vers sa naissance. Et donc, du coup, qu'avec l'âge, on s'achemine vers sa naissance. Je lis un poème de Un jour enfin l'accès, ce sera le dernier que je lirai, page 94. Avec cet enfant qui conduit l'adulte. Une fois l'invisible barrière franchie et le passage ouvert, commence un voyage dont on ne sait ni l'objet ni le terme, avec pour étoile la main d'un enfant dans la sienne.
Merci beaucoup, Frédéric. Merci beaucoup. Là, Michel Passlergue avait fait l'an dernier une très belle étude sur le temps au Mercredi du Poète. Et voilà, vous avez ajouté d'autres thèmes vraiment qui m'éclairent, qui me surprend. Enfin, l'eau ne me surprend pas, effectivement, mais l'enfance un peu plus. Parce que j'ai passé mon enfance à vouloir grandir, vouloir absolument grandir, sortir de l'enfance, et finalement, on la recherche quand même.
On a résisté.
Voilà.
Donc, tu as prévu une lecture, là, maintenant, le texte?
Eh bien, si vous voulez, oui.
Bien sûr,
oui.
Bien sûr qu'on veut. Par contre, assez fort, s'il te plaît.
Oui, je vais me lever. Peut-être que je vais peut-être insister sur la relation à la nature, peut-être. Je vais vous lire le début de Un jour enfin l'accès, qui s'intitule À l'unisson du monde. J'ai vu le vent parcourir l'orge de longs frissons aux reflets de cities. Sous ses à-coups, ce n'était plus soudain que plongeon, roulade, chahut de jeunes chats sur le perron. La fourrure des herbes hautes couvrait les champs, le bord des routes, d'une transparence où dansait, légère, la lumière. Il suffisait de 3 iris pour qu'un jardin devint un temple. Ça, c'était le poème liminaire. Alors on me dit toujours, oui, ce sont les Vosges, c'est vrai qu'il y a beaucoup les Vosges, mais il y a, j'ai vécu 5 ans en Dordogne, où je suis beaucoup retournée, et il y a parfois des poèmes qui sont directement inspirés par le Périgord. Au pays des chênes et des châtaignes, les branches se penchent sur les chemins, et pour en retenir le cours chuchote la promesse des fruits que l'automne étale en tapis. Pays où le premier chant d'oiseau pique dans le mille du temps, au cœur de l'instant d'où jaillit à profusion la joie. Il y a aussi le midi. Ce qui est très étonnant, c'est que Alors que mon imaginaire est rempli d'eau, la mer ne m'inspire pas beaucoup. Enfin, quand j'y suis, ça ne m'inspire guère. Mais là, c'est un arbre qui m'a inspirée, un arbre dans le midi. Oui. Il y a l'oiseau qui claironne au matin sa vaillance, les pies tracassières et leur bruit de crécelle, les vertes perruches, la grâce des hirondelles et l'aile de la grande mouette. Pour tous, cet arbre qu'ils habitent avec leurs chants, leurs cris, leurs envols, leurs retours. Cet arbre devant lequel j'ai compris pourquoi me retint la petite cage où l'on avait posé un pot de lierre. Par la porte ouverte s'échappait un rameau, vigoureux comme ce qui prend racine au fond du cœur, battant d'un sang ardent. Barreaux de fer ou de chair, tous appelés à la liberté des branches qui s'ouvrent en corolle sur le ciel. Je vais vous lire. Elle en appelle une autre, dit-on de la neige, qui reste en plaques dans les creuses et aux lisières. On ne s'attarde pas ici à regretter le somptueux manteau qui cachait la grisaille et berçait le monde de son silence. On sait reconnaître dans ses lambeaux ternis le signe d'un retour qui répare et rénove. Qu'ont-elles laissé les neiges d'antan, si ce n'est ces plaques disséminées qui persistent en nous obstinément comme un appel, le désir d'accueillir encore, ne fût-ce qu'un temps, un éclat de plénitude. Ce n'est plus tout à fait l'hiver. Quelque chose dans l'air, une lumière sur la terre grasse, son herbe sèche. Les mésanges dans le prunus étoilé de rose, avant que les grues ne dessinent sur le ciel leurs flèches sonores. Saison des passages, la nôtre par excellence, de la naissance à la mort, d'instant en instant. Et puis encore un dernier sur la nature. Oui, c'est le dernier poème de Un jour enfin l'accès, qui complète justement le poème Un jour enfin l'accès, et qui est emblématique effectivement de tout le chemin que j'ai dû parcourir pour briser peut-être une éducation dans laquelle j'avais consenti, mais qu'il fallait absolument distordre d'une certaine façon. Une fois l'invisible barrière franchie et le passage ouvert, commence un voyage dont on ne sait ni l'objet ni le terme, avec pour étoile la main d'un enfant dans la sienne. Déjà les cities croulant de grappes au bord des routes, la vague pelue des herbes balayées par le vent, une seule rose qui déploie au jardin ses pétales atténue le manque, réduise les trous par où s'évade, brusquement aspirée vers le ciel, la présence. Puis je voulais parler aussi du rapport, merci à Frédéric d'avoir parlé du rapport à soi. Effectivement, je m'occupe beaucoup de moi, mais d'un moi qui, j'espère, rejoint l'autre quand même. Et justement, je voulais parler du rapport aux autres qui je crois, m'occupe beaucoup. Trop, disent certains, mais bon, c'est comme ça. La lumière qu'il nous faut n'est pas braquée sur des êtres mis à nu, dépouillés de l'ombre et des reflets, figés de honte par les sarcasmes, la parole aigre sans appel ni pitié. Que nos yeux, accoutumés à l'obscurité par de longs tâtonnements, s'ouvrent à la lumière d'une aube qui révèle peu à peu les nuances d'une richesse restée captive, désormais acclamée, magnifiée par les plus beaux chants des clairvoyants oiseaux. Et celui-ci, contre des paroles qui, l'air de rien, vous hachent et vous couchent comme la grêle sur les blés, il faudrait la légèreté des graines portées par des pompons de cils blancs que le vent éparpille. On dirait des flocons insouciants qui se poursuivent, remontent, s'accrochent l'un à l'autre au hasard, au gré des souffles. La pluie contre elle peut bien faire rage. Pareilles cibles, rabattues au sol, saisiront leur chance d'y germer et d'y prendre racine pour l'herbe, la fleur ou l'arbre. Nous avons beau faire notre possible, contenter au mieux ceux que nous aimons, dont nous avons le soin, veillant à les combler sans que rien passe par les mailles de la sollicitude la plus fine, toujours flotte un vague souci, une impression d'oubli, qui se précise au hasard d'un réveil subit, oubli béant comme un grand trou creusé à notre insu dans l'esprit, dans le cœur qui se voulait attentif, stigmate d'un rêve d'indifférence ou d'absence, on ne sait face à elle ce qui l'emporte en soi, du dépit, de l'effroi, d'angoisse. Voilà. J'ai encore un peu de temps.
Oui,
un petit peu. Je voulais vous lire celui-ci pour mon père. Parce que... Il reste au sommet du chêne quelques feuilles éparses qui brillent dans le soleil matinal. Petites étoiles oubliées par la nuit et retrouvées, quand on les croyait éteintes, en compagnie de mille autres sur la moire des champs enneigés. Je pense à toi, mon père, semblable à ce chêne, aujourd'hui dépouillé par l'âge de presque tout. Tes yeux scintillent pourtant d'un éclat qui peu à peu t'enveloppe tout entier, comme si, à l'horizon de ta vie, se levait un soleil qui t'emporte dans une blancheur de neige vers un lieu de lumière. C'est un poème où j'ai essayé de contrebalancer les moments plus difficiles avec cet air dont la mémoire est aussi envolée, brisée en mille morceaux. Voilà. Peut-être que je pourrais aussi vous lire... quelques poèmes sur la poésie, de ce que peut la poésie, pour compléter ce qu'a dit Frédéric. Sous l'écume du quotidien coule, plus lente, une eau que rien ne distrait. Quand au sein du silence la nuit tient, en suspens ce qui dort et ce qui veille, ce qui naît et ce qui meurt, son cours enfle, parfois sa rumeur jusqu'au champ du ruisseau qui charrie dans une transparence de neige fondue, le furtif reflet d'une truite. Et puis, on ne soulève jamais qu'un coin de la nuit, on n'étanche qu'une partie des larmes. Nos mots sont trompeurs, nos efforts insuffisants. Il reste des chants d'oiseaux à la nuit tombée, des cœurs malgré l'âge amoureux, et dans l'ombre, l'inconnu d'un poème. Voilà, je vous remercie.
Il y a peut-être des interventions, des questions.
Vous avez beaucoup parlé de tous ces livres, mais pas de celui-là, c'est le dernier.
Non, La cloche de tourmente, c'est le... Ah non, c'est au contraire, j'allais dire, ce n'est pas le premier, mais c'est, ce n'est pas Daniel qui me traduira. parce que Daniel a eu le prix Troubadour avant moi,
c'est un vrai, je crois, hein.
Et c'est vrai que c'est un prix qu'on aime beaucoup, parce que c'est un prix, Daniel peut le dire, puisque tu es membre du jury, je crois, sur manuscrit et manuscrit numéroté, ce qui fait que je crois que les gens ignorent, anonymes. Et ça m'a fait un immense plaisir de l'avoir, et j'ai l'impression que c'est ce prix qui m'a un peu fait naître, enfin pas dire fait naître comme poète, mais qui m'a introduite quand même au milieu des autres poètes. Et c'est un petit recueil que j'aime beaucoup, parce que il se trouve que ma plus jeune fille a épousé un garçon qui est un petit village de Lozère, tout petit village. Et donc, on est allé dans ce village et il nous a fait visiter la Lozère. Et j'ai pris connaissance de ce qu'était une cloche de tourmente. Ce sont des cloches qu'on sonne dans ces montagnes très désertes pour empêcher les gens de se perdre par... ou dans le brouillard ou dans la neige. Et ça m'avait d'autant plus marqué que, bon, déjà on y était allé, il faisait un temps de chien, on imaginait bien ce que ça pouvait être. Et il y avait, dans ce brouillard, il y avait des panneaux indicateurs pour deux institutrices, et c'était marqué sur le panneau « morte victime du devoir ». Et ces femmes, effectivement, étaient allées à pied dans leur école, et elles étaient mortes dans la neige, et non loin de l'école, mais n'avait pas pu se... Et ça m'avait vraiment marqué, ce poème est né...
Donc il date de quand ?
Eh bien, il date de 2014, et il est offert à Ségolène et Gaspard. Je vais vous lire le poème. Excusez-moi, je sais plus... Ah, voilà. Quand le brouillard sur le plateau se fait épais, et que disparaît tout repère, les deux femmes tombées dans la neige non loin de l'école reviennent hanter les mémoires, et du hameau teinte longtemps par intervalle une cloche au son clair qui redonne la force à qui désespérait de retrouver son chemin et de s'abriter. Cloche de tourmente, remontée d'un continent englouti, d'hommes simplement soucieux de porter une aide et d'accueillir auprès de leur feu, à leur table, d'autres hommes dans le besoin. Cloche de tourmente, que donnent à entendre de rares voix que les années n'ont pu fêler, ni les coups reçus par grand gel. Cloche de tourmente pour les égarer en des solitudes où neige et froid brouillent distance et repères. Signal qui transforme les sons en jalons, cordial de vaillance porté par un souffle, chaque coup résonne comme des mots d'homme au secours de l'autre et devient poème. Et effectivement, la cloche de tourmente m'est tout de suite apparue comme une métaphore de la poésie.
Voilà. Et depuis que... On parle de la neige qui n'est pas bénéfique chez toi, mais qui est plutôt paralysante. Il y a une phrase de Kafka que tout le monde connaît et qui me revient tout le temps. Est-ce que c'est pas ça aussi pour toi, la poésie? Il dit « Un livre doit être une hache, oui, la mer gelée qui est en nous. » Je sens ça tout le temps pour la poésie, qui par ailleurs est... très incarné, très incarné. Ça me frappe, Béatrice, tu vois, de t'entendre comme ça. Et je trouve que ta poésie est très ancrée dans la vie. Elle est dégelée.
Merci, Claudine. Merci. Mais je peux vous lire ce dernier poème, qui date donc de 2013, oui. Tu as grandi comme cet arbre dans la cour de l'immeuble, en hauteur, faute d'une lumière suffisante pour permettre aux nouveaux bourgeons d'éclore régulièrement. Il en résulte des branches plus rares, qui ont résisté vaillamment au froid, au vent, aux pressions excessives, et sur le tronc, les cicatrices discrètes de ce qui fut empêché. De la fenêtre la plus proche, tu écoutes la pluie tomber dans le feuillage. De martèlements en ruissellement se dégage une phrase sur un accompagnement de bruit mat. Et tu comprends que ce frère troué de vide est devenu, par le secours de l'eau, un orgue végétal aux claviers étagés, célébrant les liens du manque et de l'harmonie. C'est vrai que ça s'éclaire maintenant. Voilà.
Merci. Pas d'autres remarques
pour toi, Frédéric? Merci pour cette analyse critique, mais qu'est-ce que vous avez fait pour votre savoir-faire comme ça? Est-ce que vous avez fait une thèse? Vous avez écrit des livres?
J'ai commencé une thèse.
Ah, sûr.
Déjà fait. Sur Jean Follin. Non, je ne l'ai pas terminé pour des raisons familiales, mais j'ai travaillé beaucoup sur Jean Follin. Et puis par ailleurs, j'essaye, autant que le temps me le permet, d'avoir une activité critique. Outre ma propre écriture, mais d'entrer dans l'écriture des autres, voilà, parce que c'est important.
C'est bien, vous avez des points.
Dans l'univers des autres.
Merci.
Voilà, maintenant vous connaissez donc Frédéric Dieu.
Ouais, voilà, ce n'est pas un pseudonyme, c'est mon vrai nom.
Donc le vrai Dieu.
On est 20 ou 25 à s'appeler Dieu, comme ça, à Paris. Hein.
À Paris,
vous n'êtes que 25, hein.
Oui,
ah ouais.
Il y a 25 dieux à Paris.
Ah, c'est bien ça.
Parce que, c'est plus que d'arrondissement. Mais des IEU, après il y a des X, il y a des H.
Ouais, il y en a qui sont déjà venus tout seul.
Il y a une rue qui s'appelle, je pense, dans le 11e,
la rue Dieu,
le 10e.
Oui, la rue Dieu,
et
oui,
on a Dieu.
Écoutez, s'il n'y a pas d'autres commentaires, tu termines quand même. Allez, relis-nous quand même un poème, et puis on terminera un poème qui fera là.
Moi, je vais vous en lire un de la cascade.
Oui, bah oui. Oui, t'en as pas lu du tout.
Non, je n'ai pas lu. Non.
C'est le dernier livre.
Oui, c'est le plus récent. Oui.
Ben, je vais vous lire justement la cascade, parce que justement, je l'ai intitulé. Alors, c'est un livre qui a plusieurs parties. Il y a une courte partie qui est dédiée à une amie qui est elle aussi décédée. Et puis le reste, c'est ma mère, mais tout cela était un peu concomitant. Et oui, la cascade, il m'arrive de marcher en montagne et j'ai toujours été très étonnée de voir ces cascades qui dévalent. Alors, je m'étonne naïvement, mais un scientifique pourrait répondre, mais pourquoi tant d'eau si longtemps? Pourquoi ça coule comme ça autant? Et puis surtout au sol, elle est toujours aussi limpide, alors qu'elle s'est heurtée, elle s'est cognée un peu partout. Elle pourrait être boueuse et pas du tout. Et je me suis dit que ça pouvait être une métaphore de l'amour maternel qui prend des coups et qui est inépuisable d'une certaine façon.
Oui. C'est beau.
Voilà. Elle a dévalé les plus abruptes parois, pressée par l'urgence, écumante, en un flot si fourni, si continu, qu'on se demandait d'où pouvait venir tant d'eau. Elle achève son cours heurté, d'où jaillissaient parfois des perles de soleil, sans qu'aucun poème soit parvenu à dire ses grondements et ses berceuses. De si haut qu'elle soit tombée, son eau, sur le sol, reste translucide. Elle s'écoule et disparaît sous terre, fidèle à sa vocation d'aimante nourrice.
Merci. Merci à Frédéric, à Béatrice et à Daniel d'avoir proposé un après-midi particulièrement riche. Le prochain rendez-vous ici, ce sera pour ton anniversaire. Je suis désolée si j'avais su que ça aurait fait venir le 29 février. Donc le 29 février sont invités Ariel Spiegler, qui sera présentée par Antoine Paulin, et en première partie des collages de Tina Schaeffer. donc le 29 février. Alors normalement, pardon.
Elle sera présente aussi, il y a une poésie et musique.
Ariel Spickler, d'accord, très bien. Le 29 février, ce sera, donc attendez quand même de recevoir mon mail, normalement je devrais récupérer juste pour une fois la salle Pierre Cochereau. Ce serait bien, voilà. Mais ce serait la dernière fois, malheureusement.
Mais pourquoi ?
En mars, elle est plus disponible, elle est déjà prise et dans peu de temps après, elle devrait être démolie. Donc, pour faire place, évidemment, à quelque chose qui soit plus haut, qui soit plus rentable.
Ouais, oui.
Remarquez, en opposition, ils ont construit ici, mais bon, par contre, les salles, voilà. Le résultat, c'est qu'ici, on est un peu à l'étroit. Surtout comme aujourd'hui, bon, c'est vrai que c'est un peu aléatoire la fréquentation.
Il faudrait casser le mur là.
Ah, oui. Là, on a de la chance de ne pas avoir eu quelqu'un à côté, parce que sinon, moi j'ai récupéré toutes les chaises à côté, des chaises dans une réserve là-bas. Sinon, c'était pas possible. Donc, c'est vrai que bon, j'hésite encore à savoir est-ce qu'on se contente d'ici en sachant qu'on ne peut pas être plus que là. On était à peu près, il y en a deux, trois qui sont partis, c'est tout. Donc, on était à peu près 35. C'est vraiment un très grand maximum et à condition de pouvoir récupérer les chaises. Donc pour l'année prochaine, j'hésite, je pense plutôt chercher une salle ailleurs, mais je ne sais pas du tout. Voilà, encore. Voilà, donc oui, non, c'est pas évident. Ou est-ce que je me contente d'ici en sachant qu'il y a des fois où on est 10. C'est vrai aussi, les associations, c'est toujours la grande surprise en fonction des invités. C'est vrai que Béatrice a fait venir du monde. Et Daniel, toutes les deux, oui. Vous avez fait venir du monde.
C'est deux présidents d'Aliénor.
Voilà, c'est ça, exactement. Donc, je sais pas, on verra pour l'avenir. Et voilà.